Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui fait des litanies gagnipèdes qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Là, je viens de perdre tout le monde. Non mais revenez quoi, on a une émission à faire quoi. Mais nous allons. Je suis Wana et Pied. Les gens qui viennent de partir, c'était Isaac et Thio. Salut les gars.
Salut ouais.
Voilà. Et non, ça y est, Thio boude. Et nous allons vous parler de bande dessinée pendant une durée indéterminée mais longue. Je crois.
Il faut que ce soit fini hein, quand même.
Non.
Un long monologue.
Voilà.
Moins d'une heure.
Nous allons vous parler de Servitude d'Ikigami, tome 6 et 7, de Svoboda, tome 2, du dernier Courtney Crumrin, de Holmes, tome 3, du premier tome de Doctor Who paru en France, de Bravo les Brothers. En splash page, Thio va nous parler de Lorenza, Thio. Et pour le online, je vais vous parler de 8p.cx. T'as vu un peu comme ça pète comme nom ?
Oui, c'est 6PO aussi.
C'est le code d'une planète dans Stargate.
Ouais. Donc, on va pouvoir démarrer de suite. On pense qu'on va vous faire... Alors, comme il y a 15 jours, nous n'aurons pas nos chroniqueurs favoris que sont Merton et Matt. Mais on va dire que dans 15 jours, on va essayer de remettre les choses bien en place, de bien repartir sur de bonnes bases, de même faire peut-être une émission où on expliquera un peu comment marche l'émission pour les gens qui débarquent. C'est... Hey les gars, vous débarquez, vous ne nous avez jamais écoutés, peut-être qu'on va vous expliquer comment ça marche. Et en attendant, on commence de suite.
Il était temps ! Nouvelle œuvre de la bande dessinée ancienne !
Servitude, tome 1. Donc Servitude est une série qui existe depuis quelque temps. Il y a déjà 4 tomes, je crois, 3 ou 4 tomes qui sont parus.
5.
5, oh. Et Thio m'a gentiment prêté le tome 1. Une bande dessinée de Bourgier et David aux éditions Soleil pour 13,50€. C'est tellement vieux qu'il y avait le prix écrit en vrai dessus, tu vois.
Ouais. Je sens vachement content sur la lecture, ça t'a beaucoup plu.
Servitude, comment dire, c'est de la, le genre, c'est de la fantaisie à papa. Disons que quand on ouvre une BD et qu'on commence par avoir une sorte de poème qui te décrit les origines du monde suivi de la carte de l'univers, tu te dis ça. C'est de la fantaisie à l'ancienne. Ça peut être cool. Tu feuillettes et tu fais « Ah ouais, ça a la classe quand même, les dessins, ils déchirent. » Et en fait, j'avoue que j'ai été un peu perdu par l'intrigue, que j'ai trouvé un peu complexe. C'est pour ça que je demandais à Thio d'essayer de me la résumer.
T'avais un peu en fait, le truc,
patate chaude.
Ouais, en fait, le truc, c'est que c'est comme tu l'avais déjà précisé dans une discussion qui était hors antenne, mais je trouve qu'il est intéressant de citer, c'est que c'est une partie de jeu de rôle. C'est donc un début d'une partie de jeu de rôle. Donc forcément, l'intrigue est bien complexe. Personne ne comprend rien. Et tes joueurs essayent d'avancer. Donc ton héros essaye d'avancer lui aussi dans cette espèce de gros merdier où il essaye de s'en sortir en ramant. Quoi. Il rame beaucoup.
Donc, pour résumer, si tu as botté en touche. Là. Pour résumer, en gros, on va suivre les aventures... D'un monde où il y a trois grandes régions, grandes provinces, qui se latent sur la gueule depuis longtemps. Apparemment, c'est qui se lattaient sur la gueule. C'est les fils qui sont répartis les régions. Et avec des complots entre les différents gens à l'intérieur pour essayer de protéger les frontières, faire des mariages entre personnes qui vont bien. On se retrouve avec des personnages et puis des trucs très originaux comme un frère et une sœur qui en fait couchent ensemble. Des gens qui sont durs, une magie assez peu présente, un monde où la magie est peu présente, où il y a beaucoup de complots politiques, où tout le monde.
Excuse-moi, tu arrêtes de spoiler le Trône de Fer là, s'il te plaît.
Ah non, je parle de Servitude.
Parce que là, depuis tout à l'heure, tu es en train de raconter le trône de fer, un truc hyper complexe. Quand on regarde la carte, au nord, il y a une grande barrière rocheuse avec au nord les terres gelées, et au sud, une grande barrière rocheuse avec en dessous le grand désert. Ça me rappelle vaguement quelque chose quand même. Hein.
Donc clairement, alors j'avais lu un truc, mais je dirais peut-être une bêtise. Il me semble que j'avais lu que c'était effectivement l'auteur qui avait adapté ses parties de jeux de rôle dessus. Je pense que c'est des parties de jeux de rôle grandement inspirées du Trône de Fer. C'était avant que la série sorte et qu'on en fasse tout le foin qu'on
avant
en fait
que
derrière.
Avant que la série télé sorte, ouais. Les bouquins étaient déjà sortis.
Oui, voilà, les bouquins étaient sortis. Et pour le coup, quand on vient de se taper la série, il y a un gros air de déjà-vu qui pique un peu les yeux. C'est un peu... Mais c'est aussi... J'aurais pas connu la série, j'aurais peut-être accroché que j'en peux plus à la BD. Ouais.
Alors, au niveau du dessin, moi j'ai trouvé ça splendide.
Je confirme.
Voilà, c'est, je trouve ça ouais, vraiment, c'est magnifique.
C'est un trait réaliste avec des couleurs... Enfin, c'est une sorte de noir et blanc sépia...
Ça m'a fait rigoler d'ailleurs parce qu'au début, il est spécifié que le dessin et les couleurs sont de Éric Bourgier. Enfin, surtout le dessin, parce que alors les couleurs restent très monochrome quand même.
C'est très monochrome, mais il y a quand même un boulot sur la couleur. Ça, on peut pas le nier. C'est un très beau travail, je trouve justement. C'est très détaillé, c'est très précis, très dynamique dans les traits. Franchement, un dessin bluffant. Moi, j'adore. Il y a une très jolie ligne, des personnages bien caractérisés. Je me suis vraiment fait plaisir aux yeux en regardant ça.
Mais par contre, au niveau de l'histoire, moi j'ai trouvé ça quand même d'une part très confus, comme mon commentaire du début pouvait quand même bien le laisser entendre, et puis un peu simpliste pour l'instant. Alors je t'avoue, je sais même pas en fait si je vais continuer les autres tomes ou si je vais m'arrêter dans une grande boutique avec un V et m'asseoir par terre pour lire la suite. Voilà.
Marche aussi avec un F.
Ça marche aussi avec un F, ouais. Et bientôt, ça marche aussi avec un C.
Knook.com.
Il y a
Four
Market ?
Non. Un truc de...
Non, mais on peut dire des marques, on s'en fout.
On s'en fout. Dans Cultura, qui va ouvrir à plan de campagne. Oh. Et oui.
Je savais pas, tiens. Par contre, c'est vrai que voilà. Et puis, il y a quelques passages. Bon, c'est très verbeux. Beaucoup de textes. Il y a des bulles, mais remplis de textes, un peu plus. Et puis, il y a quelques passages silencieux, mais qui sont magiques. Quoi. Tu te dis, mais ce mec-là, il est capable de te faire une narration, enfin un scénario qui est beau, qui est agréable à voir, et puis d'un coup, pof, pof, texte, ça va, oui, c'est écrit petit. En soi, c'est intéressant, mais pour un premier tome, bah, ça me donne pas envie de continuer, c'est dommage. Alors qu'il y a toutes les petites piques, dit tiens, ça a l'air sympa, en allant vers là, il y a peut-être un point de vue intéressant, mais tu te retrouves vite paumé, quoi, avec des tonnes de personnages, avec plein de noms compliqués, des lieux avec plein de noms compliqués.
Peut-être que la suite éclaircira un peu les choses, je sais pas.
Voilà, et puis des pavés de texte qui, je pense, sont bien pour l'ambiance, mais peut-être un peu trop littéraires parfois. Ouais, et puis le dragon qui arrive à la fin, enfin bon.
Comme dans le Trône de Fer.
Voilà.
Mais t'avais pas dit qu'il n'y avait pas de magie? Un dragon, c'est magique, non?
C'est peut-être pas magique, c'est peut-être une bête.
Ah, d'accord.
Dans cet univers-là. Donc voilà, c'est de la bonne fantaisie à papa.
La fantaisie à papa, c'est son terme, hein, c'est pour ça qu'il le ressort.
Oui. On peut aimer le genre, en tout cas on peut aimer les dessins, ça c'est sûr.
Voilà, comment il nous donne envie de lire le tome 2.
Voilà, parle dans le micro quand tu veux dire des choses.
Voilà comment il nous donne envie de lire le tome 2.
Oui, une fille à poil.
Juste à la fin, livre 2, la carte du sud et une fille à moitié nue. Hé.
Bah oui, il fait chaud dans le sud.
Comme dans le trône de fer. Je pense qu'à un moment donné, il y a un truc quand même. Hein.
Je crois que...
Par contre, j'ai une vraie question. Les personnes qui regardent le trône de fer, à chaque fois qu'elles prononcent le mot, elles sont obligées de faire
le trône de fer.
Ah, oui, c'est écrit en majuscule, tu regardes.
C'est pour ça que ça... Wesh.
Alors là, j'étais tranquillement en train de regarder le trône de fer. Et ensuite, voilà. Putain, au montage, on va avoir des saturations sur le trône de fer. Donc,
serre-moi une bière. Tu veux le faire ensuite avec...
Arrête de parler en majuscule.
Tous les trucs qui riment en R. En fait, on peut faire ça comme ça.
C'est vrai. Bon, on va voir si on va tenir tout du long du
Parle-moi
podcast.
Parle-moi de ta mère.
C'est pas ma mère, c'est mon frère.
Ikigami. Il y avait trop de pieds là. Ça marchait moins bien.
Ikigami. Tome 6 et 7. Oui, on essaie de rattraper notre retard sur Ikigami. Le tome 10 s'est paru il y a peu. La série est finie. Ikigami, nous le rappelons, il y a une loi de prospérité nationale dans une sorte de Japon fantasmé. Japon à la Brick Brother. Dans le genre, on a mis 1984.
À la Brick Brother.
Brick Brother. À la Brick Brother.
Ta langue a fourché, mais c'est à la Big Brother, en fait.
Oui, c'est ce que je voulais dire.
Ouais, mais la Brick Brother, ça fait pas mal. Ça fait donc... un petit côté Super Mario, peut-être. La Brick Brother.
Ouais, c'est vrai. Je signale à nos auditeurs que nous n'avons pas bu. Donc...
Si, on a bu du Schweppes, du Coca et du café.
Et donc cette loi fait que pour donner aux gens envie de vivre et d'aider la société, on leur injecte dans leur enfance en même temps que les vaccins une capsule, et sur une capsule sur 1000, il y a quelque chose qui va tuer la personne qui l'a eu entre ses 18 et ses 25 ans.
24.
Et 24 ans.
Et là, je dis pas de bol.
Pas de bol. Et donc, on suit l'avis d'un fonctionnaire qui va remettre l'ikigami, qui est le 24 heures avant la date du décès, pour dire « Hey, vous avez été choisi pour aider la prospérité nationale, vous mourrez dans 24 heures. »
Et l'avantage, c'est que le l'ikigami donne, enfin avantage, entre guillemets, ouais, bien sûr, donne à son détenteur en fait, le droit d'utiliser les transports, d'aller dans des restaurants, de payer tout un tas de trucs, enfin de ne rien payer en fait, grâce à l'ikigami.
Pendant 24 heures.
Pendant 24 heures, parce qu'au bout de 24 heures, bah, tu passes à la caisse et c'est fini.
Et donc dans cette série, on suit toujours, à chaque volume, il y a deux histoires en trois chapitres qui nous montrent quelqu'un qui reçoit l'ikigami et comment est-ce que cette personne va gérer le fait qu'il lui reste 24 heures à vivre avec son histoire personnelle, avec ses problèmes, ses soucis, ses buts, ses ambitions. Et puis on suit aussi en parallèle, en fil rouge, notre fonctionnaire qui commence à se poser des questions.
C'est un fonctionnaire
qui commence à se poser des questions, et à savoir si c'est bien ce qu'il fait parce que ou pas. Et puis on voit qu'il y a une résistance qui existe pour lutter contre l'ikigami.
Parce que pas tout le monde est d'accord, en fait.
Et là, ça commence à se mettre bien en place. Là. Au niveau des histoires, pour vous donner vite fait, on va suivre l'histoire d'un jeune qui était un super danseur, mais qui, pour faire plaisir à son père, a repris les études et est devenu gros, et qui donc va être super danseur. Tu sais, il fait de la street dance, etc. Donc c'est un rebelle. Son père, il était pas d'accord, tu vois. Et donc on voit comment est-ce qu'il gère de faire qu'il a brisé ses espoirs et ses chances de devenir un grand danseur, et qu'il ne reste que 24 heures pour prouver qu'il en est encore capable. Qu'allons-nous suivre d'autre, Thio, toi qui as les livres sous les yeux?
On a aussi une histoire sur la photographie.
Oui.
Qui est donc la lutte entre l'argentique et le numérique.
Et le numérique. On a aussi une prise d'otage.
Oui.
Car notre jeune fonctionnaire va se faire prendre en otage par quelqu'un à qui il a remis l'ikigami. Et le gars essaye en fait de faire passer de l'info dans les médias. C'est une histoire sur les médias où le père du jeune en question était quelqu'un qui avait une émission où il dévoilait les trucs, tu sais, une émission de reportage très, très puissante. Et en gros, il a été un peu muselé, il a arrêté de faire ça. Et il demande à ce que son père refasse parler les médias et qu'on dénonce l'ikigami sur toutes les chaînes de télé. Et envoyé pour négocier, la jeune fonctionnaire psychologue
qu'avait dénoncé notre
le héros, oui, parce qu'il l'a dénoncé
Fujimoto.
Parce qu'il soupçonnait qu'elle, en fait, il s'est retrouvé dans la situation bâtarde où soit il la dénonçait pas parce qu'elle lui avait parlé du truc, mais si c'était une fausse révolutionnaire, c'est lui qui allait avoir un problème. Soit il la dénonçait pour se sauver les miches. Au cas où ce soit une fausse révolutionnaire. Et donc là, il se rend compte Et il se rend compte qu'elle travaille avec le gouvernement, mais on n'est pas à l'abri de... Non, mais il y a beaucoup de rebondissements là-dessus. Au niveau du dessin, on a un dessin réaliste, assez sombre, qui, je trouve, s'affine avec le temps. Non ?
Ouais, je trouve que ça reste vraiment du même niveau. Il n'y a pas de... Moi, je n'ai pas trouvé une progression, quoi.
Ouais. Ah, je crois qu'il y a un petit... ça affine un peu, mais bon, je vais peut-être... Donc, très, très joli. Au niveau du scénario, on avance.
Ben, moi, le scénario, je fais une petite phrase, c'est pour moi, la partie commence.
Ouais.
Je trouve qu'avec le tome 6 et 7, là, ça y est, quoi, les pièces sont en place. Et voilà, on commence à jouer vraiment. sachant qu'il ne nous reste plus que 3 tomes.
Mais ce qui est pas mal, c'est qu'en fin de compte, on se rend compte que même si c'était un peu lent au niveau de l'intrigue principale, il avait besoin de ce temps-là pour qu'on comprenne bien les tenants et les aboutissants de cette loi, comment ça fonctionne. Dans les premiers tomes, il nous expliquait comment était distribué l'Ikigami, comment est-ce que les mecs savaient que c'était telle personne qui allait mourir, alors que... Enfin, tout le fonctionnement du système, en fait. Et là, maintenant qu'on sait comment le système fonctionne, on voit comment fonctionnent ceux qui sont contre ce système. Sachant que... Si tu es contre le système, on peut te demander d'aider de force la prospérité nationale en mourant. C'est la classe.
C'est un bon moyen quand même de lutter contre toute forme de rébellion, quoi.
Oui, oui, oui.
Ça fait un peu... Ça fait un peu fascisant, je trouve.
Ouais,
comme,
ouais, un peu...
Ça y est, le point Godric est atteint.
Godric, le point Gryffondor.
Le point Godric Gryffondor. Godric Gryffondor.
Donc c'est le point Godric Gryffondor.
Allez,
non,
merde, j'aurais dû parler de Man of Good tout à l'heure. Oh là là.
Et donc, ça fait toujours aussi peur, hein, comme BD au niveau de... Et c'est surtout très très bien écrit au niveau des réactions du pauvre fonctionnaire. Parce
du
que,
pauvre, ouais, parce que le pauvre gars, il se retrouve vraiment entre deux feux, il essaye de ménager la chèvre et le chou. Il a ses idées et en même temps il a pas envie de canner, quoi. Donc
oui,
il se dit bon ben en même temps ça va, j'ai un peu assuré le steak, j'ai déjà dénoncé quelqu'un, donc bon
je suis tranquille.
Et là d'un coup hop, allez, un peu l'IGS qui arrive grosso modo
pour surveiller ce qu'il fait.
Voilà. Et il se dit bon mais ça va, je suis tout blanc moi, c'est bon, j'ai déjà dénoncé quelqu'un, je suis un gentil.
Oui, c'est-à-dire qu'en gros il fait des trucs qui sont en soi horribles, mais t'as tendance à le comprendre en te disant bah. C'est pas facile, quoi, comme situation.
Ben, il ne fait que son travail. Mm. Il obéit aux ordres.
Oui, mais il commence à vouloir sortir de ça.
On peut faire encore un point de gros truc, celui-là.
Ouais. Donc, très très bonne série.
Ben.
J'attends la suite avec impatience. Je vais vite me choper les 3 tomes.
En fait, il te reste juste à les acheter.
Ouais, je pense que les 3 prochains tomes vont être achetés d'un coup.
Sachant, je crois qu'il y avait aussi un truc spécial pour le dernier.
Oui, il y avait une petite figurine en cadeau, mais ça ne m'intéresse pas trop, tu vois.
Oh, ah oui, il n'aime pas les figurines.
Ouais.
Dans les bacs.
Et on passe donc tout de suite à Svoboda, tome 2, Yekaterinbourg, été 1918.
Pour le micro, je veux l'album.
Pour le genre, c'est une épopée historique.
Donc c'est le carnet de guerre imaginaire d'un combattant de la Légion tchèque, de Jean-Denis Pendant et Chris.
Pendanx.
Pendanx.
Je sais pas, je pense que le X, on le prononce peut-être, j'en sais rien.
Donc tu vas à Cassis. Et Paris, c'est la capitale de la France.
Ouais, plus ou moins, comme on dit Paris ici. Donc... On continue à suivre l'épopée de ces Tchèques un peu paumés au niveau de la guerre.
Un peu SDF du champ de bataille, en fait. Ouais,
du mauvais côté de la ligne de front, en fait.
C'est ça.
Ils voudraient bien rentrer chez eux.
Non, en fait, ils voudraient bien aller taper de l'allemand. Mais ils peuvent pas. Parce qu'en fait, les Russes, ils veulent pas les laisser passer. Enfin, les Rouges, parce que du coup...
Ouais, mais en fait, si. Ils veulent bien les laisser passer, sauf qu'en fait, le chemin pour aller... sur le front, passe par l'exact opposé. Donc, ils vont d'abord à l'exact opposé où il y a embouteillage, et ensuite, ils sont censés revenir.
Et là, donc, on suit l'embouteillage. Là, on est en plein épisode d'embouteillage. Ils sont bloqués, ils ne savent pas trop comment réagir. Ils sont amusés à... Ils ont pris des lignes de chemin de fer et ils les utilisent pour aller...
Transsibérien.
Ouais, pour aller bouter la gueule des méchants dans tous les sens, avec les Russes qui les gonflent au milieu quand même.
En fait, ils butent pas du méchant, en fait. Oui. Là, à partir de ce moment précis, ils sont seulement en Russie et ils vont se retrouver à être obligés de taper soit sur les rouges, soit sur les blancs, parce que l'un comme l'autre n'ont pas envie que cette armée-là rejoigne le front de l'autre côté.
Ils sont un peu dans la merde, quoi.
C'est ça. Et l'action se termine donc à Yekaterinbourg. Ville célèbre, pourquoi ?
Parce que c'est là que Anastasia R. était enfermée avec sa famille.
C'est ça. En référence à un formidable tome que nous avons chroniqué précédemment.
Et d'ailleurs, on a ce qui se passe en l'extérieur de la ville pendant que la famille Romanov va se faire décimer la face.
Pas encore.
Pas encore, mais ça va pas tarder là.
C'est juste quelques jours avant.
Voilà. Globalement, au niveau du scénario, qu'en as-tu pensé ?
Ouais, voilà, je suis pas. J'étais vachement emballé par le début, où on avait vraiment donc l'histoire des deux gars. Là, j'ai plus les noms en tête, je suis désolé. Voilà, on n'est plus Gilbert Proof. Et Yaroslav, voilà, et je sais plus son copain, là,
le peintre.
Et là, on va dire, l'histoire est un petit peu laissée de côté, et on va suivre surtout l'histoire du train, en fait, des Tchèques qui essayent de rejoindre l'Est pour. Non, l'Est au départ, mais finalement, ils s'aperçoivent qu'ils ont fait.
Qu'ils vont dans le mauvais sens.
Qui veulent rejoindre donc l'Est pour aller donc justement prendre le bateau pour rejoindre le front occidental de la Première Guerre mondiale. Et ils se retrouvent mêlés plus ou moins à la guerre entre les Rouges et les Blancs suite à la Révolution d'octobre.
Ouais, ils sont là où il ne faut pas être, quoi.
C'est ça, c'est ça. Et ils vont provoquer une sorte de gaffe historique qui va provoquer la mort du tsar.
Petite gaffe.
C'est ça. Moi, pour moi, c'est ça. C'est le scénar. Je trouve qu'il se résume à ça. C'est une gaffe historique.
Mais la gaffe est très bien amenée, justement. C'est intéressant.
La gaffe est très bien amenée, mais c'est une gaffe historique. Grosso, les mecs, ils sont passés. Ils ont, hop, on a fait une boulette et ben hop, on a changé l'histoire.
Et pourtant, enfin, ce que je trouve que c'est bien amené, c'est que c'est ce que j'appelle la petite histoire, c'est-à-dire les petites histoires de personnages qui ont une influence. On voit tel que c'est écrit que on parlera pas d'eux dans les livres, quoi.
Surtout que c'est imaginaire, quand même.
Oui, voilà. Mais bon, c'est non, mais. Je crois que c'est basé sur des personnages réels, hein. Enfin, grandement inspiré, il me semble. Moi, j'ai trouvé ça sympa, mais c'est vrai que mon manque de culture historique fait que je suis vite paumé, quoi.
Ouais, mais enfin, là, même non, disons-le, quoi, c'était pas super, c'est pas super intéressant, quoi, ce qui se résume dans ce tome-là, quoi. Le premier tome était un tome où voilà, on te mettait en place les personnages, les liens entre les, avec justement l'infirmière. Et là, je ne vais pas spoiler, mais ça y est, elle revient. Elle revient comme un cheveu sur la soupe, quoi. Grosso modo, oui. Les mecs, ils ont parcouru 3000 km dans les steppes. Et puis, hop, vous tombez sur un village. Ouh ! Et qui on voit arriver d'un coup ? Elle.
Bah, est-ce que ce n'est pas un peu une volonté de faire un peu une histoire à la Dumas, quoi, où tu as des coïncidences énormes, des petites actions qui ont une influence sur la grande histoire Il y a un petit côté Dumas, je trouve, dans la façon dont il a voulu de raconter son histoire.
Ouais, peut-être. Mais c'est vrai que moi, du coup, je me suis dit, ça m'a pas. La fin m'a pas passionné. Voilà. Par contre, un truc que ce jeu-là, la couve est splendide.
Oui. Les dessins, justement.
Pardon. Les dessins, je les ai trouvés excellents. Voilà. C'est dynamique, c'est je dirais, pour moi, ça représente bien justement la folie dans les combats, l'espèce de dynamisme qu'il y a dans les personnages. Je trouve que c'est
un peu crade aussi.
Oui. Voilà, ça représente bien, je pense, ce que ça devait être à l'époque.
Ouais, c'est un semi-réalisme qui s'y est très bien à l'histoire, qui est bien. Qui permet d'avoir quelque chose de bien péchu, sans être trop statique, trop mort, et ça passe très très bien. Et puis ça modernise un peu le propos aussi, comme style graphique.
Pour rappel, sur le premier tome, on reprochait au dessin d'être un peu plus fouillis, et notamment un gros manque de précision dans le travail des visages. Et là, dans celui-là, c'est ben, justement plus précis. Y a du mieux sur l'ensemble des dessins. On peut remarquer aussi que c'est plus coloré. Il y a une plus grande diversité, en tout cas dans les couleurs. Donc voilà, il y a un effort, je trouve, supplémentaire sur la partie graphique, tant sur le dessin que sur la colorisation.
Tu es tenté par la suite quand même ?
Oui.
Ouais. Bah, t'as envie de savoir ce qui va se passer.
C'est ça.
Surtout que dans le premier tome, ils mettaient en place, on voyait des personnages plus vieux, etc. Mmh. Ils mettaient en place.
Mais tu sais qu'en fait,
a priori, là, n'est pas du tout utilisé.
Voilà, c'est que tu sais que dans le premier tome, ils ont survécu à la guerre et ils ont fait autre chose de leur vie. Mais voilà, qu'est-ce qui nous a amené jusqu'à ce point-là, ça on ne sait pas encore.
Ouais, c'est vrai que c'est ce qu'on a envie de savoir. Chez Futuropolis
pour 13 euros. Mais sauf que là, c'était plus la thématique.
Enfin, on peut le faire quand même, c'est bien pour les gens. Courtney Crumrin, le tome 5, Courtney Crumrin et l'apprenti sorcière de Ted Neff. Je ne sais pas comment du tout on peut prononcer ça.
Neff.
Voilà, ça me fait le Neff.
Ted Neff.
Ça fait un peu star de baseball, c'est... Et voilà maintenant Ted Neff sur le terrain.
Il n'a pas fait, c'est comme le trône de fer, ça.
Ah, le trône de Neff. Courtney Crumrin a une nouvelle voisine.
Une trop bonne copine.
Elle va pouvoir se faire une copine avec Holly Hartley qui vient de débarquer. Et elle aussi, elle est un peu rebelle et un peu bizarre. Et elle n'aime pas trop les gens comme tout le monde, les beaux gosses et compagnie. Et donc elle se dit, oh, Courtney Crumrin, elle a l'air trop cool, la fille qui est toute seule et à qui personne parle. Je vais essayer d'être devenir son amie. Et elle essaye. Et elles deviennent à peu près copines. Et...
Elle devient copine, ouais, effectivement.
Jusqu'au moment où Holly découvre que Courtney est peut-être pas si cool que ça et commence à lui faire des coups vaches. On ne sait pas trop pourquoi elle va faire des coups vaches à Courtney qui...
Oui, parce que finalement, elle ne lui a rien fait.
Elle ne lui a rien fait. Et la grande réussite, je vais essayer de ne pas spoiler parce que c'est pas évident, la grande réussite de ce tome-là, c'est le retournement de point de vue qu'on a en cours d'histoire. C'est-à-dire que pendant tout le début, on a le point de vue de Courtney, qui a sa nouvelle voisine, et puis un peu après, pouf, retournement de point de vue, et on voit à quoi ressemble Courtney vu par les yeux de quelqu'un d'autre.
Par les yeux, en fait, de tous les autres enfants, on va dire, de son école.
Et Courtney s'en rend compte. Et waouh, ça laisse un peu sur le cul, c'est super bien écrit. Ça reste de l'horreur jeunesse, hein, c'est assez enfantin. Au départ, les gens disaient que c'était un peu dans la lignée d'un Harry Potter, même si je trouve que c'est quand même vachement plus sombre, moins rigolo.
C'est beaucoup plus sombre parce que c'est quand même beaucoup plus trash, quoi, dans ouais. Ce qui se passe pour les personnages.
Oui, ils souffrent, hein, les personnages.
Il y en a qui prennent. Hein.
Et donc, c'est intéressant parce que ça permet de revenir sur les 4 tomes précédents, sur tout ce qui s'est passé dans les tomes précédents, de revoir un peu les personnages qu'elle avait rencontrés précédemment. Mais de voir les choses sous d'un autre œil.
Et surtout en parallèle, on va suivre aussi l'histoire d'Alistair.
Ouais, Alistair, son grand-oncle.
Son grand-oncle. Et qui commence à avoir lui aussi du mouvement dans sa vie, quoi.
En fait, il va mourir.
Voilà, c'est ça, le
il le sait. Et il essaie de trouver un moyen que ça n'arrive pas. Et c'est pas évident, apparemment, parce qu'il a déjà. À plusieurs reprises, il utilisait un moyen pour pas mourir, et là, ça commence à devenir difficile. Et il doit un peu faire des négociations avec les autres sorciers, qui apparemment sont pas forcément tous ses copains, quoi.
Parce que visiblement, il les a un petit peu tous dirigés depuis déjà plusieurs années, quoi.
Ouais, d'une main de fer. Il est pas forcément très cool, ce Alistair.
C'est ça.
Au niveau du scénario, voilà, moi, je suis resté sur le cul. Ça m'a bluffé, c'est-à-dire que ça m'a donné envie de relire les précédents pour.
Pour moi, c'est juste, là, le choix des mots, ça a été un autre regard, parce que c'est vraiment, tu changes, comme tu l'as dit, vraiment complètement le point de vue. On est en train de passer de l'autre côté. On pensait qu'on avait notre héroïne, c'était Courtney, et en fait, si on se place de l'autre côté, on voit l'histoire tout à fait autrement, et les gentils sont plus finalement qui on pensait, quoi.
Ça, pareil, hein, ça. C'était pas une série très manichéenne à la base, mais alors ça l'est encore moins après la lecture de ce tome. Le dessin est toujours aussi dans ce noir et blanc tranché, très très classe. Courtney a un look un peu bizarre parce que son nez n'est pas dessiné, mais elle n'a pas de nez. C'est la seule d'ailleurs.
Oui.
Et il y a une façon de dessiner les loups. Il y a des personnages de loups dedans, c'est magnifique. J'adore le dessin de ce mec et alors. Il arrive à te créer des ambiances bien flippantes, je trouve. Tu sais jamais trop ce qui va arriver au personnage. Tu sais jamais trop comment ça va évoluer. Par ces ambiances, et puis parce que tu as des personnages secondaires qui sont intéressants, qui sont bien prenants, les gens qui sont maudits et qui essayent de se racheter. Le dessin et l'histoire se mêlent vachement bien. Et
le dessin, l'histoire, et puis en même temps aussi tout le background avec la ville, la forêt, plein de choses effectivement qu'on n'a pas eu, dont on n'a pas eu beaucoup d'explications dans les tomes précédents, et tout ça se met bout à bout en fait. Ce serait, c'est voilà, petit à petit, il met en place tous les morceaux de son monde, quoi. sachant en plus que, sans spoiler, à la fin, on a quand même un gros changement.
Gros changement. C'est une donc excellente, bonne bande dessinée.
Et une bonne suite à Quentin Grimbrin qui voilà, donne envie d'avoir déjà la suite.
Déjà.
Mais sauf que bon, ça paraît pas très 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 rapidement.
Encore une BD chez Aquileos, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et là, je vais céder la parole à Isaac et Thio, parce que...
À Isaac.
Ils vont parler d'une BD que je n'ai pas lue.
Isaac va nous parler de...
Holmes, tome 3, L'ombre du doute, par Cécile et Brunschvig. Donc moi, j'ai eu le plaisir de lire les trois tomes d'un seul coup, puisque...
Ce qu'il faut que je fasse aussi, parce que j'ai pas lu les précédents.
Voilà, et c'est du bonheur en barre du début à la fin. On va faire un petit résumé rapide de cette façon-là. Tant sur le dessin que sur le découpage que sur le scénario, c'est du bonheur du début à la fin. Donc, du coup, vu qu'on ne chronique que le tome 3, j'ai un peu du mal à faire la distinction de...
Donc, qu'est-ce que ça raconte globalement ?
Globalement, Sherlock Holmes est mort au chute d'un Rauschenbach. Rien de nouveau jusque-là. C'est la fin habituelle fournie par le... Eh bien sûr, j'ai oublié le...
Conan Doyle.
Par Conan Doyle, merci.
Sachant qu'il y a une suite, hein, par voilà. Conan Doyle aussi.
Alors justement, alors, ce qu'on apprend, parce que c'est très bien documenté à côté quand on farfouille un peu, et donc en fait, Conan Doyle a subi la pression de son personnage, et donc il y a eu beaucoup de choses dites, racontées, écrites, machin, autour de l'œuvre de Conan Doyle, et donc Conan Doyle a été à un moment donné obligé de ressortir des histoires avec son héros qui l'a mangé peu à peu. Donc toujours est-il que pour en revenir à cette BD-là, c'est le docteur Watson qui enquête sur...
Non, c'est pas dans les chiens de Baskerville qui revient.
Alors, si, c'est Baskerville qui le fait revenir. Oui.
C'est Baskerville qui le fait revenir.
Oui, absolument. Bref, donc c'est Dr. Watson qui enquête sur les origines de Sherlock Holmes, les origines familiales, et sur également les origines familiales du Dr. Moriarty. Et on se rend compte que les choses ne sont pas si tranchées, qu'il y a beaucoup de zones d'ombre chez Moriarty, mais également dans la famille de Holmes, avec beaucoup d'autres personnages qui interviennent, des nourrices plus ou moins fantômes, des infirmières plus ou moins fantômes, des arrière-grands-parents un peu bizarres. Et donc on voyage un petit peu dans le passé de Holmes. C'est extrêmement intéressant, c'est très 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 bien écrit.
Sur les zones d'ombre, il avait de la matière, parce que bon, sur Holmes, on sait deux trois trucs, mais alors sur Moriarty, il y a quasiment que dalle dans les.
C'est ça. Donc c'est très très riche. On passe un excellent moment. Ce n'est que du bonheur. Donc je ne veux absolument rien dévoiler, absolument rien spoiler, si ce n'est que le scénario avance beaucoup sur ce tome 3. Et nous laisse avec encore plus de questions, et donc vivement le tome 4.
D'accord. Le dessin.
Beaucoup de traits de crayon pour donner beaucoup de dynamisme. Et au niveau des planches, il y a beaucoup de cases, je trouve. Il y a beaucoup de textes, mais malgré ça, ça reste dynamique. C'est aussi un travail sur les prises de vue. Ça, sur la fin du tome 3, justement, il y a des petits bonus où on nous explique le choix des dessins, le choix des personnages, les épreuves qui ont été faites
ça
avant,
doit être
etc.
La première édition, j'imagine.
Et c'est très intéressant, justement, de voir qu'il y a eu une recherche, une réflexion de fait sur le choix des prises de vue. Plus ou moins en hauteur, quel cadrage on effectue, à quel endroit on coupe, etc. Donc un vrai souci dans le travail, dans la réalisation, pour donner quand même l'ambiance nécessaire quand il y a beaucoup de foule, par exemple. Pourquoi est-ce que c'est tel choix ou tel choix qui a été fait, voilà. Donc bref, que du bonheur.
Là aussi,
on est dans un vrai travail.
Là aussi, on est dans un niveau de gris, un dessin en niveau de gris.
On est dans un niveau de gris. Quand on fait des flashbacks dans la vie de Holmes, généralement, on est plutôt sur du sépia. Voilà. Tout est réfléchi du début à la fin. Les rêves de Dr. Watson sont beaucoup plus sombres. avec un effet de flou qui est donné en crayonné. Enfin, c'est vraiment, vraiment très, très bien travaillé et on est à fond dans l'ambiance. Quoi.
Thio, ton avis ? Attrape le micro.
Moi j'avais acheté les deux premiers tomes en fait ensemble puisqu'ils avaient fait un petit coffret très joli avec
un écran de MJ dedans
avec un petit autocollant et tout. Enfin bon, voilà, j'ai trouvé ça super joli, surtout au niveau du dessin. Au niveau de l'histoire, ça m'avait bien plu au départ justement de s'intéresser à qu'est-ce qui avait amené Sherlock Holmes à être comme il était ainsi, et Moriarty aussi. J'ai essayé de retrouver la genèse. J'ai été un petit peu déçu par ce tome. Enfin, un peu déçu. Déçu dans le sens où il ne m'amène pas de réponse.
Ouais.
Mais voilà, il t'amène beaucoup de. Enfin, il amène des questions. Et du coup, ben, il va falloir attendre un tome 4. Et je dirais que malheureusement, je pense qu'on va mettre quelques années avant de l'avoir.
Tu sais si c'est une série qui est prévue, enfin si le nombre de volumes est prévu ou pas.
Je sais pas.
D'accord, c'est toujours le.
Je n'étais pas. Peut-être que c'est connu, mais je ne me suis pas renseigné dessus.
Donc, très très bonne série qu'il faut choper et que je vais m'empresser de lire dès qu'on aura fini d'enregistrer.
C'est une bonne idée.
Docteur Who. Le
parce
tome.
Que juste voilà, je te coupe comme ça, tu as commencé ton intro, c'est super. Donc c'est 2008 pour le tome 2, 2012 donc pour le tome 3. Voilà, donc 4 ans entre le tome 2 et le tome 3, je ne sais pas s'ils iront plus vite. Ça sent que Brunswick, a priori, je pense qu'il a d'autres choses à faire aussi.
Oui, il fait beaucoup de choses en ce moment.
Voilà, donc du coup, je pense que ça va être compliqué pour avoir plus de rapidité dans les bouquins.
C'est chez Futuro.
Au prix de
13,50.
Ouais, j'ai te dire, voilà, c'est bien ce qui me semblait, c'est que le tome 3 a pris un petit peu plus, a pris 2,50€.
Ouais, enfin, en 4 ans, il y a eu une belle inflation.
Voilà, c'est ça. L'inflation, c'est 2,50€ en 4 ans.
C'est puis les 7% de.
Ouais, dans 4 ans, ça sera la récession, donc on l'aura à 10€.
Docteur Who, le tome 1, agent provocateur chez un éditeur que je ne connaissais pas, qui s'appelle French Eyes, qui est apparemment spécialisé dans les bandes dessinées américaines de licence, dont du Hellraiser, du Dracula, et puis d'autres séries dont je n'avais jamais entendu parler. Docteur Who est un personnage dont je suis entièrement fan, après avoir découvert la série télé.
Il nous en rabat les oreilles à longueur de soirée.
Et je me suis dit, ah, une BD Docteur Who, pourquoi pas ? J'ai été curieux et je suis quand même
et
pas mal
bien déçu. bien mal lui en a pris.
Oui, parce que s'il faut convaincre ensuite mes collègues de regarder Doctor Who après avoir lu cette BD, ça va pas être facile.
Alors contrairement à Thio, moi j'ai commencé à regarder un petit peu la série télé. Et effectivement, il y a un univers qui est extrêmement décalé au niveau des décors, notamment au niveau du jeu des acteurs, etc. Mais on se prend vite au jeu parce que le personnage est attachant, parce que les scénarios sont extrêmement bien ficelés. C'est le gros point fort, je trouve, de Doctor Who, quand on commence à le suivre un petit peu. Et là, comment dire, au niveau du scénario, ils ont tenté de faire un truc suivi là.
Un peu comme dans la série télé.
Peu comme dans la série télé.
Des histoires indépendantes avec un fil rouge.
Des histoires indépendantes, mais qui finalement s'imbriquent encore grâce à un fil rouge, voilà exactement. Mais ça marche pas très bien parce que c'est fait un peu à la serpe. Et puis alors, le dessin.
Alors déjà, grosse difficulté. Bon, un seul scénariste, ça c'est une bonne chose, c'est Gary Russell qui avait travaillé sur la série télé apparemment. Beaucoup de dessinateurs, José Maria Berdi, Stefano Martino, Nick Roche et Mirko Pierfederici. Déjà, beaucoup de dessinateurs. Il y a à boire, à manger. Il y en a que je trouve très bons, il y en a que je trouve un peu bof. Moi, le gros problème qu'il y a, c'est le dialogue. La verve de Doctor Who passe très très mal à l'écrit. J'imagine très très bien les textes que je vois là, dit par le Docteur Who. Alors c'est le dixième Docteur qui est représenté, qui était joué par David Tennant. Je vois très très bien le Docteur Who les dire, mais à lire, c'est lourd, c'est pompeux, ça passe pas bien, il n'y a pas le débit, il n'y a pas le rythme. Il parle très vite. Et, dans la série, il dit beaucoup de choses, beaucoup de conneries, et puis il y a beaucoup de mots qui servent à rien. Ils ont essayé de faire pareil dans la BD, et ça coince.
Ça coince, le rythme n'est pas bon, comme tu le disais, et puis du coup, ça crée des à l'inverse, justement, les remarques que lui fait, ou que sa comparse, j'ai oublié son prénom...
Martha Jones.
Ça casse encore plus le rythme, en fait, ça hache encore plus les choses, alors que dans la série, il y a un vrai ping-pong, il y a un vrai échange entre les deux, on sent une vraie complicité. Là, à l'inverse, ce système-là à l'écrit, qui est peut-être moins bon, en plus, je pense, dans l'écriture, ou dans la traduction, je ne sais pas, mais casse le rythme. Vraiment, ça rend encore la chose pire.
Il y a un autre truc, alors je sais pas, ils ont essayé peut-être d'être trop proches de la série télé, et c'est un peu dommage à ce point-là. On a l'impression que les designs des extraterrestres et compagnie ont été faits avec le budget effets spéciaux de la série télé. Ce qui, pour une série télé, bah, on pardonne parce que c'est pas évident, mais là, ça fait un peu... ils piquent les yeux, quoi, leurs extraterrestres. Et les dessins... Ils sont pas mauvais, mais ils sont trop changeants, en fait. On a le premier dessinateur qui a un côté un peu cartoony, qui est sympathique, alors qui se tient pas vraiment sur les visages, etc. Mais c'est toujours le problème quand on fait une BD où on a un personnage, enfin un acteur réel comme base. On a un dessinateur un peu plus réaliste qui arrive après et qui est plutôt pas mal, je trouve, au niveau de son trait. Mais c'est trop varié. Et puis un méchant qui fait un peu sourire, quoi. Des prises de vue trop classiques. C'est très bourré de clichés. J'ai été pas mal déçu.
On retrouve pas vraiment l'ambiance, en fait, de la série télé. Les éléments qu'ils ont voulu garder passent pas en bande dessinée. Tu parlais justement des décors très cheap dans la série télé, qui effectivement ont raison d'être et donnent un côté très vintage et très décalé.
Et en plus, ils ont disparu avec les dernières saisons, en plus, les trucs côté cheap.
Oui. Voilà, là, clairement, ça ne fonctionne pas du tout. Voilà, c'est dommage, vraiment dommage.
Alors, donc, moi, je ne suis pas fan de la série. J'ai trouvé que c'était un comic de merde. Voilà, hein, on le dit. Donc, même si vous êtes fan de la série, je pense que vous aussi, vous allez trouver que c'est de la...
Ouais,
c'est
ouais,
de la grosse bouse, non, mais voilà, faut le dire.
Non, voilà, je partais avec un a priori positif, et là, j'étais très déçu.
Après, visiblement, donc, il y a plusieurs parutions qui sont déjà prévues. J'en ai feuilleté une
hier. Ouais, août septembre, quoi. Ils ont prévu un tome par mois.
Je suis tombé sur une. Celle de gauche, là.
Avec l'ouverture de Steve, je crois que c'est Steve Niles,
voilà. Et donc, du coup, celle-là, graphiquement, ça a l'air déjà de se tenir beaucoup plus. Mais je pense que c'est une série qui va être très inégale dans le ton. C'est géant, toi. Très inégale dans le ton. Et bon, ben voilà, on rabat les oreilles en disant que Doctor Who, c'est génial, mais enfin, là, le comic, c'est vraiment un chien. Alors j'espère que la série est meilleure, parce que sinon, vous regardez vraiment de la dub, les gars.
Et je pense qu'ils auraient peut-être... Alors après, je sais pas comment sont les autres BD, mais si ils ont fait le choix de diffuser dans l'ordre des sorties de la BD, s'il y en a des tomes mieux, ils auraient peut-être pas dû commencer par ce tome-là, faire comme l'avait fait un moment Delcourt avec Sandman en sortant pas le tome 1 en premier. Parce que le tome 1 fait un peu, il pique un peu les yeux, le tome 1 de Sandman. Voilà. Et ils étaient passés sur un tome un peu plus qui montre que le scénario vaut le coup, quoi.
Mais moi, là, c'est pas tant le scénario qui me pose problème. Ouais. Hein. C'est le rythme qui est très mauvais dans les dialogues et puis la partie dessin. Hein.
Le scénario, attends, je suis désolé. Je suis sur la planète Alpha, hop, il m'arrive un truc, je suis propulsé normalement dans une prison, hop, mais je me retrouve sur la planète Beta qui me permet de résoudre une partie de l'énigme. Mais hop, ensuite, je me téléporte sur la planète C qui... Ah, c'est bon, les gars, la facilité dans le truc... Enfin, le scénario est décousu, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien du tout, il n'y a rien pour le sauver. Alors, j'espère que dans votre série, je vous dis, il y a vraiment un truc bien. Parce que là, c'est pourri.
Bon, bref, Matt, vote pour l'euthanasie. Ah, ok, on a compris. Donc, tout ça pour la modique somme de on s'en fout.
Ouais, de toute façon, l'achetez pas. 14,50€.
Gardez-vous 14,50€. Ouais, allez, acheter Holmes.
C'est rare qu'on soit... soit mauvais comme ça. J'essaie de toujours trouver un côté positif, tu vois, mais là, c'est vrai que bah, si vous êtes fan de la série et complétiste, voilà.
C'est ça.
Bravo les Brothers. Là, on arrive sur du méga classique. Un monument classique, c'est le genre, en soi. Hein. Bravo les Brothers est une histoire courte de Franquin avec Spirou, Fantasio et Gaston. C'est un une des dernières fois où il a dessiné Spirou et Fantasio. Il était en train un peu de vouloir lâcher la série pour se concentrer sur Gaston. Et donc, cette histoire se trouvait déjà dans Panade à Champignac, si je me souviens bien. Et là, ils ont fait une belle édition. Ils ont refait les couleurs pour essayer de respecter les couleurs telles qu'elles pouvaient paraître dans le magazine. Parce que les procédés d'impression ont tellement changé entre-temps que c'est difficile de conserver. Donc, je crois que c'est Frédéric Janin qui a fait les couleurs. Je pense qu'il y a eu un très, très gros boulot pour essayer de retrouver le truc. Et il y a surtout, après cette histoire, qui fait une vingtaine de planches...
En fait, on a 21 planches de l'histoire Bravo les Brothers, et ensuite, on a presque 60 pages sur la réalisation, pourquoi, comment, les états d'âme de Franquin...
On a en vis-à-vis de la planche ancrée d'origine, en vis-à-vis, on a une explication sur... comment il travaillait, où il en était dans sa vie quand il a fait, ses relations avec le magazine Spirou. Et c'est génial.
Si on est passionné, c'est génial.
Moi, je suis un fan de Spirou, Fantasio, voilà, oui, Franquin, mais...
Si, voilà, comme tu dis, si on est passionné, c'est génial.
Si on n'est pas passionné, on n'achète pas d'achat.
Champignac, et on lit juste le Bravo les Brothers, qui est excellent.
Oui.
Qui est vraiment excellent. Je l'ai relu et je me suis régalé. Mais c'est vrai que toute l'explication, il y a des moments où tu es un peu dans la vie de Franquin et c'est peut-être pas non plus.
C'est de l'énorme. C'est graphiquement, c'est énorme. En gros, nous suivons Gaston qui, pour l'anniversaire de Fantasio, décide de lui offrir 3 singes qu'il a achetés à un cirque en faillite. Et à partir de là, c'est comment gérer ces singes qui foutent le bordel de partout. Surtout qu'en plus, il y a Monsieur de Messmaker qui vient pour.
Signer les contrats.
Et c'est vraiment
du très grand
Franquin au top de sa forme, quoi. Il y a un dynamisme, une modernité dans le trait. Il arrive à faire sortir ses personnages des cases quand il faut. Il y a un ancrage magistral. Franquin, quoi.
C'est dithyrambique, là, quand même.
Ouais.
Et ça a juste 45 ans, en fait.
Oui, c'est ça. C'est quand tu vois que ça a 45 ans, que tu vois que graphiquement, ça n'a pas vieilli. C'est magique. J'ai pas beaucoup de mots, en fait. Enfin, voilà, quoi.
Ouais. Je crois qu'on va les classer comme quoi ? Monument ?
Monument classique, ouais.
Monument classique, voilà. Mais c'est ça.
C'est grandement recommandé.
Disons, lire Bravo les Brothers, oui.
Oui.
Après, voilà, vous pouvez lire dans Panade à Champignac. Ça vous fera peut-être un petit peu moins cher que d'acheter Bravo les Brothers par Franquin chez Dupuis. Je ne sais pas à quel prix il est, mais je pense qu'il doit être quand même beaucoup plus cher qu'un tome de Spirou et Fantasio.
Oui, parce que c'est une belle édition sur beau papier.
Mais voilà, vous lisez le Panade à Champignac, ce sera très bien aussi. Si vous voulez en connaître un peu plus sur Franquin, sur son travail et sur... comment on travaillait aussi à l'époque, parce que tu remontes quand même à presque 50 ans, c'est très intéressant. C'est un bon achat de passionné. Ou en tout cas, si vous connaissez quelqu'un qui est passionné, ça peut faire un bon et un très beau cadeau.
Oui, c'est quelque chose... un beau boulot, quoi. Et puis un beau boulot d'édition. Je regrette souvent quand il y a des intégrales où ça manque un peu de bonus, de remise dans le contexte. Et là, ils se sont permis de le faire, justement, et de très belle façon. Voilà, 24€, quand même.
Ouais, mais enfin, vu l'édition,
oui, non, ça allait beau, hein,
c'est pas mal. Et puis rien que pour le jaune de la couverture, ils ont réussi à retrouver un jaune des années 60.
Ouais, c'est
du jaune qui ne se fait plus. Ça n'existe plus normalement.
Mais
ça.
Il t'explique dedans comment est-ce qu'ils choisissaient les couleurs pour les murs des bureaux et compagnie, tu vois. Des éditions Dupuis dans lesquelles il allait quasiment jamais. Il t'explique les origines des personnages, de Boulier, du dessinateur aussi, dont on voit jamais un seul dessin, en fait.
Oui.
C'est un truc que j'avais jamais remarqué. Ils ont un dessinateur dans le magazine. Dans tous les Gaston, il apparaît quasiment, il apparaît dans plein d'histoires, mais on ne voit jamais un seul de ses dessins, mec. Enfin, voilà, nous lisez ça. C'est bien.
Splash Page.
En Splash Page aujourd'hui, je voulais vous parler de Lorenzo Accio, de Régis Penney, donc d'après l'œuvre d'Alfred de Musset. Lorenz Alcheux, donc moi j'ai eu envie de lire grâce à Philippe, qui avait donc participé à l'émission live des deux ans. Des deux ans. Et
Bon, alors attendez, là ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que j'éclaircie la situation. Isaac est en train de manger une biscotte avec du jambon dessus, et cela provoque l'hilarité chez Thio, qui tente de camoufler le visage d'Isaac avec une bande dessinée. Voilà.
Vous saurez tout. Donc, Philippe m'avait donné très envie de lire Lorenz Alcheux, parce que forcément, j'avais jamais lu. Et du coup, je suis allé dans une grande boutique avec un V, pour toujours la citer, et j'ai acheté Lorenz Alcheux, la pièce de théâtre que j'ai lue. Et je reçois un texto, peut-être un bon deux mois après, et Isaac dit « Ouais, j'ai acheté des BD et tout !» Il avait acheté Lorenz Alcheux, dont nous avait parlé Philippe. Et j'ai lu
la BD. Après avoir lu. Donc, tu as lu la pièce peu de temps avant.
J'ai lu la pièce peu de temps avant. Et du coup, j'ai lu la BD ensuite. Et je me suis régalé. Et donc, je vais faire ma splat page. Je préparais un grand speech et tout qui fait 3 pages. Donc, voilà, ça va être un long monologue de 3 minutes.
On t'écoute.
Pour présenter Lorenz
Alcheux. Il était une fois.
La pièce donc, se situe à Florence à la fin du règne d'Alexandre de Médicis, un tyran corrompu qui a l'appui de l'empereur d'Allemagne et du pape. Ses frasques et ses abus donc de pouvoir lui attirent la haine d'une partie du peuple et des familles nobles, notamment celle des Strozzi, désireuse de renverser le pouvoir pour instaurer donc la République à Florence. Notre héros romantique, Lorenzo de Médicis, âgé d'une 20aine d'années, qui est le cousin du tyran, sa mère le décrit comme un jeune homme qui dans le passé était studieux, honnête, destiné à devenir un grand homme. Mais ma question serait celle-ci, c'est Lorenz Alcheux ne serait-ce qu'un masque? Parce que visiblement, il est bien différent de ce que sa mère pense qu'il devait être. Putain, j'ai un souci de...
Mike?
De micro, je suis désolé.
Ah oui, tu as un souci, plus qu'un souci, c'est que il s'est fracassé, en fait.
Et voilà. Donc, Renzo, parce que c'est ainsi que le surnomme Alexandre, a un projet fou. Il veut tuer le tyran. Alors pour l'approcher, il va jouer le débauché, la pire canaille. Mais le rôle n'est pas sans risque. Très vite, il va devenir la personne détestée par tous. Florence.
Firenze.
Et Lorenz Alcheux se ressemblent. Il va être la personnification de cette ville, de ses travers, de sa vertu. Trop divisés pour jamais s'entendre, ils sont tous deux condamnés à mourir. Florence ne peut se nourrir que du sang versé par ses enfants, ce sang qui doit lui apporter la rédemption et la rendre enfin aussi belle que ce qu'elle doit être. Lorenz Alcheux joue le rôle d'un personnage christique, son sacrifice nécessaire doit amener la paix.
Bravo. Ouais.
Dit-il avec une biscotte et du jambon au fond de la bouche.
Un bon texte.
Alors... Déjà, des petites différences au niveau, je pense qu'il faut quand même tout de suite les noter, c'est que le Lorenz Alcheux, la bande dessinée, a pris quelques libertés.
D'accord.
Notre Alexandre a un cigare.
C'est vrai. Il y a un côté plus... D'ailleurs, tu as dit pour le genre, fidèle à Florence.
Fidèle à Florence, ouais. Pour moi, ça fait vraiment penser à un coup d'État, quoi. Un bon Castro qui dirige, quoi. Mais en même temps avec une grande fidélité à Florence. Parce que c'est le personnage principal. Et Lorenz Alcheux va porter ce masque où il va jouer le méchant pour finalement essayer en fait, de rendre Florence à sa vraie nature, c'est-à-dire...
La beauté.
La beauté. Votre avis ?
Eh bien, pour moi, la pièce était assez lointaine. J'en garde un souvenir de lecture scolaire, même si c'était une des rares lectures scolaires que j'ai beaucoup aimées. Et j'ai trouvé le texte très beau, la façon dont c'est écrit vraiment très joli, pas forcément évidente à lire toujours en termes de BD, de narration. On voit qu'on a une certaine fidélité au texte en fait.
Oui.
Ce qui parfois fait que ça racle un peu à la lecture. On apprécie la beauté du texte, quoi, qui est très très bien écrit, qui est superbe.
Alors, sachant que pour répondre aussi à ce que m'avait dit Philippe, quand il dit voilà que c'est une pièce qui était inadaptable, au départ, Musset ne la voulait pas adaptable. En fait,
oui.
Parce qu'il l'avait mis dans un recueil qui s'appelait Spectacle dans un fauteuil. C'est-à-dire en fait qu'on vivait la pièce en la lisant, pas en la regardant.
Comme une BD, quoi.
Comme une BD, voilà, c'est ça, oui. C'est parce qu'en fait, il y a à peu près, si tu mets réellement, tu essaies de jouer Lorenzaccio, t'as 4h30 à peu près de spectacle. Je crois 40 personnages et un nombre de décors, un truc de
des
monstrueux.
Qui passent.
Voilà, un truc de malade, quoi. Et du coup, Lorenzaccio n'a jamais été joué du vivant de Musset.
Il n'y avait pas eu budget.
La première fois que ça a été joué par Sarah Bernhardt. Qui jouait le rôle de Lorenzaccio. Parce qu'en fait, le rôle a toujours été tenu par des actrices.
D'où l'ambiguïté qu'il y a dans le dessin.
D'où l'ambiguïté, je pense que Régis Pennet a voulu mettre dans son dessin, en sachant pas très bien si Lorenzaccio est un homme ou une femme. C'est un homme, mais il l'a beaucoup féminisé. C'est un côté androgyne qui est, je pense, très marqué.
Oui, très marqué. Donc oui, moi, c'était le côté inadaptable. Je crois qu'il avait voulu que ce soit inadaptable parce qu'il avait eu des déconvenues dans les pièces qu'il avait écrites et qu'il a dit... Puisque c'est comme ça, mes prochaines pièces, et ben, je fais ce que je veux.
Sachant que celle-ci, c'est une adaptation quand même d'une nouvelle qui a été faite de George Sand et d'une autre personne dont j'ai plus le nom en tête.
D'accord. Ouais, t'as bien travaillé le sujet.
Ouais, parce qu'en fait, il a été avec George Sand.
Musset a été avec George Sand.
C'est les infos que j'ai.
C'est les infos que t'as eues.
Je sais pas s'ils ont consommé, mais.
Oui, donc il y a ce côté, ouais, ce texte qui. Bah, qui est un peu. Qui n'a pas le dynamisme qu'on pourrait apprécier dans la bande dessinée, etc. Mais qui, pour le coup, passe bien, parce qu'on sait que c'est le texte d'origine, que c'est, et que c'est beau en soi. Mais c'est le dessin qui m'a laissé sur le cul, quoi. Putain, mais ce dessin. C'est un dessin ultra réaliste. Mais d'une douceur, d'une beauté, d'une finesse. Magnifique, un travail sur les cheveux, ne serait-ce que le travail sur les cheveux qui est assez bluffant, sur les décors, sur les masques,
sur les espaces. Enfin, le masque, de toute façon, c'est vraiment, enfin, pour avoir lu du coup la pièce, le masque est je dirais un perso, enfin, est presque une partie du personnage de Lorenzaccio et de Florence aussi.
Le masque et le miroir aussi.
C'est le masque, c'est le miroir, c'est le visage qui est caché derrière, et bah, finalement le personnage de Lorenzaccio se bâtit sur ce masque, en fait. Il y a le vrai Lorenzaccio, celui qui est derrière, et il y a le masque qu'il veut donner à tous les autres pour réussir à tuer le tyran.
T'imagines très bien Renzo devant son miroir dire « You talking to me? You talking to me ?» Tu vois, c'est le même genre d'idée. C'est l'image que je veux donner aux autres en me regardant dans le miroir. Moi, j'ai toujours trouvé cette histoire belle et tragique à la fois, parce que c'est vrai qu'il fait des sacrifices terribles. Par contre, j'avais le souvenir d'un long monologue où Renzo se révèle en fait dans ce monologue-là, et je l'ai pas retrouvé dans la BD. Alors je sais pas s'il y a eu un découpage ou si c'est un faux souvenir que j'ai.
Il y a des coupes. Hein.
Alors que pour moi c'était le moment de ce monologue-là, c'était le moment de la tirade magique, quoi, le truc superbe de l'histoire. Ouais, enfin très belle bande dessinée.
Et je trouve que c'est une adaptation qui, après, laisse un petit peu de liberté sur la fin.
Ouais.
Dans le sens où, après là, voilà, c'est mon avis entièrement personnel, ça n'engage que ma personne, chacun y voit ce qu'il a envie. Je trouvais que dans la pièce, vraiment, il y a à la fin Lorenzo qui est désenchanté, qui voit bien que finalement, une fois qu'il a fait son sacrifice, qu'il a tué le tyran, il est vide, quoi, il n'y a rien en lui. Il se déteste, quoi, il est vraiment dans une sorte de mélancolie, il a tout perdu.
Oui, il s'est tué pour
pour sa ville. Il s'est sacrifié pour sa ville, mais finalement, il n'en retire rien. Et je trouve que dans la BD, Régis Pennet a essayé, à mon goût, d'être un petit peu plus optimiste, en fait. Que cette statue va justement lui permettre de passer à la postérité. Elle est aussi présente dans la pièce, mais son visage en fait fera que il sera l'image du sacrifice nécessaire.
D'accord.
Oui, il va espérer un petit peu en fait de grandeur ensuite, quoi.
Wow. Tu en parles très bien. C'est vrai que c'est une très belle BD. C'est aux éditions 12 bis.
Ouais.
Ouais, pour 15 euros. Régis Pennet, tu t'es renseigné un peu? Je connais pas, j'ai rien lu de lui.
Voilà, je sais qu'il est né à Dieulfi dans la Drôme, qu'il a fait d'autres bouquins, mais je n'en connais aucun. Je sais qu'il a travaillé avec Gian, Jean-Philippe Gian, et je sais plus.
Philippe Gian, c'est un auteur de roman.
Oui, de polar. Là, c'était Doggy Bag, je crois, Gian.
Ouais.
Et je n'en sais pas plus sur lui. Okay. Mais en tout cas, vu le talent qu'il a pour le dessin et donc pour le scénario aussi, parce que l'adaptation, c'est lui qui l'a faite.
Oui, c'est un sacré boulot d'adapter
ça. Je pense qu'il peut nous faire de très bonnes choses.
Oui, et puis même au niveau de la narration, de la façon dont les... C'est pas que de la belle illustration, ça reste de la belle bande dessinée. Quoi.
Et puis les petits anachronismes qu'il a glissés dedans passent finalement, je trouve, très très bien.
Oui, puis ça permet, je pense aussi, de placer cette histoire hors du temps. De dire que c'est quelque chose qui peut arriver n'importe où, n'importe quand, et que cette histoire est éternelle, que ce genre de sacrifice sera éternellement beau quelque part. Voilà. Et ben merci beaucoup. Tu m'as donné envie de le relire d'un autre œil, en fait. Enfin, de relire la pièce aussi.
Online.
Je vais vous parler de 8 Pages Comics, à l'adresse super facile et super sympa à retenir, 8p.cx. 8 Pages Comics, c'est un principe de fanzine à imprimer chez soi. Ça a été créé par des auteurs de l'Employé du Mois, donc Sacha Gerg, dont on avait parlé, qui ont voulu juste créer une sorte de catalogue de fanzine qu'on peut imprimer soi-même, avec un petit système de pliage. N'importe qui peut proposer sa bande dessinée sur leur site, et elle sera ils te proposeront un PDF qui te l'imprimera automatiquement avec un petit système de découpage pour avoir ton petit livret sans agrafe ni rien qui fonctionne. C'est forcément 8 pages. Et les fanzines sont tous numérotés, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ça génère un PDF, il est numéroté. La petite trouvaille sympa. Et donc, tu as une plateforme assez complète où il commence à avoir pas mal d'histoires. Il doit y avoir quasiment 170 histoires disponibles à l'heure actuelle. Sachant que chacun peut en proposer. Des auteurs un peu connus se sont prêtés au jeu. Je pense à Tanks, Thomas Gilbert, enfin des auteurs un petit peu indés la plupart du temps. Et ils sont aussi prêtés au jeu du format, à essayer des choses innovantes, inédites. Par exemple, il y a Yann Arthus Bertrand, Vue de la Terre, comme... qui est un sujet assez sympa. Il y en a qui sont amusés à faire des brèves pour raconter des petites histoires courtes. Et ils ont essayé de toucher un peu tous les genres. T'as de l'érotique, du policier, de la science-fiction, de la romance, de l'autobio, des trucs jeunesse. Ça touche un peu à tout. La plateforme est très bien foutue. Chacun peut laisser des commentaires, dire si ça lui a plu, donner une note, etc. C'est très très propre. Et puis, c'est l'occasion de se faire plein de petites découvertes. Et même si tu peux lire les bandes dessinées en ligne, avoir le plaisir de t'être imprimé cette petite BD qui t'aura plus plu qu'une autre, et de savoir que celle-là sera unique et sera la tienne, parce qu'il y a le numéro de la version que tu as imprimé gratuitement. Hein, ça reste totalement gratuit et ouvert. Voilà. Le site est encore noté comme étant en version bêta. Mais en tout cas, moi, j'ai testé. Ça marche très, très bien. J'ai fait une petite impression pour voir ce que ça donne. Il est aussi bilingue, c'est-à-dire que même si c'est une initiative... je vais dire française, mais on va dire francophone, parce qu'il me semble que c'est plus une initiative suisse, peut-être. Mais bon, il y a la version anglaise qui permet à n'importe qui, dans toutes les langues, de proposer. Et c'est très, très bien foutu. Moi, je prie bien plaisir.
Petite question, est-ce que toutes les bandes dessinées qui sont proposées sont imprimables, du coup ? Est-ce qu'il y a derrière une sélection
Ah non, tout est imprimable. C'est-à-dire j'imagine que, je n'ai pas vu comment ça donnait du point de vue auteur, mais tu dois te créer un compte, t'envoies tes 8 planches, et lui, en gros, va créer l'imposition, c'est-à-dire le fait de poser les planches, tes planches dans le bon sens automatiquement pour que ton PDF puisse... Le PDF est généré à la demande, en fait.
Ouais.
Ce qui permet d'avoir un numéro unique à chaque fois. Donc, c'est une petite plateforme sympa qui permet de découvrir un peu des auteurs plus ou moins connus, de suivre des auteurs qu'on aime, qui se sont amusés à aller faire quelque chose sur ce site. Puis c'est vrai que le côté 8 pages, ça permet de tenter des expériences, peut-être faire une sorte de feuilleton d'histoire en 8 pages. Et puis on peut raconter pas mal de choses en 8 pages, en fait. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé 8p.cx. Par exemple, là, il y a une BD de Sacha Gerg qui s'appelle Niveau CE2, l'intégrale. Voilà. Je ne sais pas ce que ça contient, mais...
Ça peut être sympa, du coup. Peut-être que j'aurais tout mon programme mis en 8 pages.
Voilà.
On peut tenter ça, peut-être. Voilà, comme je n'ai pas trop tenté cet été.
C'est une BD d'Aelix. C'était Sacha Gerg qui avait laissé un commentaire. Et à chaque fois, il te crée un petit texte automatique en fonction des mots-clés que t'as mis. Donc là, c'est un fanzine en noir et blanc avec de la romance, de l'humour, mais aussi de l'aventure, de la politique, du documentaire, des éléments historiques, du suspense, de l'horreur, du drame et de l'expérimentation.
Il y a aussi des oignons et des poireaux.
Voilà. Et t'as des stats. Tu sais qu'il y a eu 225 visites sur le truc, 56 impressions, 9 votes, que ça arrive à telle date. Tu peux dire si c'est bien, si c'est pas bien. Enfin, et que là, si je veux l'imprimer, je générerai le tirage numéro 57.
Mmh.
Voilà.
Merci pour cette info.
Eh bien, nous nous quittons pour cette 63e émission.
Vivement la 64e.
On se retrouve dans 15 jours pour une émission qu'on va essayer d'être un peu plus didactique, en retrouvant toutes nos rubriques qui vont revenir petit à petit.
En retrouvant tous les intervenants qui seront donc sortis du Warp.
Voilà, je pense que pour la première émission, prochaine émission, on aura Merton qui sera de retour, et je pense qu'on aura plein de trucs à dire sur la BD au niveau des news. En général, du mal de ceux qui gèrent le numérique, mal, et du bien des auteurs qui font des initiatives intelligentes. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur iTunes, parce que c'est ce qui nous permet de nous faire connaître, parce que c'est aussi le plus grand répertoire de podcasts. Et 5 étoiles, ça nous fait plaisir aussi, si vous n'avez pas la flemme de mettre un commentaire, et puis même moins, hein, si vous trouvez qu'on fait de la merde. comme du Dr. Who, n'est-ce pas, Thio? Ensuite...
Toujours l'honnêteté.
L'honnêteté.
Si on trouve que c'est pas bien, il faut le dire.
Oui, non, mais t'as raison.
Si vous trouvez que je fais de la merde, vous le dites aussi.
Voilà. Tu ne vexeras pas.
Il se vexera, mais vous avez le droit de le dire.
Voilà. Et puis bien sûr, compte Facebook, compte Twitter.
Si vous trouvez aussi qu'Isaac chante divinement bien, dites-le lui, ça lui fait plaisir.
Il n'y a pas fait de chanson dans cet épisode.
Oh,
c'est le premier avec Isaac où il n'y a pas de chanson.
Ah mince, le numéro 63 est sans chanson. Oh, il doit être bien triste.
Ouais.
Isaac, tu es triste?
Oui, c'est la leçon numéro 69 d'Obad, créer le manque.
Sur ces bons mots, nous allons nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. À dans 15 jours. Ciao.
Ciao, ciao.
Bye, bye. Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui est le monde qui est les enfants.
Alors là, tu vas la refaire.
Excuse-moi, tu peux me la redire parce que j'ai rien compris.
We are the world. We are the children. Donc, je viens de reprendre une chanson que Thio nous a chantée avec beauté tout à l'heure.
Ouais, pour alors quand tu dis qui est le monde et qui est les enfants, tu l'écris comment? Est
être.
Ah voilà, d'accord. Ouais, moi j'avais plutôt un H au début, mais...
J'avais comme une chanson, on va la refaire parce que...